Bonjour et bienvenue dans Politique. Au menu aujourd'hui, l'amitié est-elle possible en politique ? Alors cette semaine, nous ne parlerons pas d'élections, ou pas seulement, mais plutôt d'affinités électives. Ces affinités qui vous ont sans doute guidé pour élaborer votre liste d'invités au nouvel an, ces précieux amis à qui l'on sait pouvoir tout dire, ou au contraire tout taire, sans que le lien ne soit altéré. Mais ce lien existe-t-il aussi dans la jungle politique ? L'amitié peut-elle survivre dans cet univers de rivalité et d'ambition propice à l'individualisme et aux trahisons ? Vaste question que nous allons examiner avec notre invitée Marie-Laure Delorme. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Journal du Dimanche et vous publiez une enquête à ce sujet, un livre auquel vous avez donné pour titre la célèbre formule de Montaigne sur son ami La Boétie. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, ouvrage paru aux éditions Grasset. Merci d'être avec nous dans Politique. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30.
Pardon, moi j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin.
Oui. J'ai pas d'amis.
Non, j'ai pas d'amis. De là où je suis, vous savez,
alors
il y a une chose,
de l'ami.
Vous me parliez
Emmanuel Macron.
Mais vous savez, les insinuations dans la vie, c'est pas une bonne chose.
Emmanuel Macron,
pas
des insinuations.
Je ne sais pas. Mais si. Si,
en ce qui concerne Bernard Arnault, ce ne sont pas des insinuations.
Ni vous, ni moi, n'êtes des juges autour de cette table.
Je n'ai pas d'amis, affirme Emmanuel Macron au cours d'une interview face à Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel. C'était en avril 2018 et c'est vrai que de prime abord, il est difficile d'imaginer l'amitié s'épanouir en politique. D'abord parce que c'est un terme très galvaudé dans votre livre d'ailleurs, Marie-Laure Delorme. Bruno Le Maire fait remarquer qu'un ministre comme lui écrit la formule amicalement ou amitié sur des dizaines de courriers chaque jour. Bref, si c'est un terme si galvaudé, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il est un peu suspect ?
L'amitié en politique est quelque chose de suspect. Néanmoins, moi je crois que ça existe. C'est rare, mais ça existe. Personne ne remet en cause l'amitié entre Édouard Philippe et Gilles Boyer, ou l'amitié entre Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu. Moi, j'ai bâti mon livre presque autour de deux phrases. La phrase de François Mitterrand à Jean Lacouture en 1981, disant « L'amitié est une manière, est une façon de se pencher sur sa vie ».
On explorera les amitiés de François Mitterrand d'ailleurs.
Voilà, il montre à quel point l'amitié est quelque chose d'important, à quel point l'amitié nous engage humainement. On peut penser aussi à la phrase d'Anna Arendt dans Question de philosophie morale, où elle dit que la manière dont on se réfère au juste et à l'injuste dépend des personnes qui nous accompagnent dans nos vies. Et la deuxième phrase, elle est celle de Sylvain Faure, qui est l'ancienne plume d'Emmanuel Macron, qui dit que la politique est la pire des épreuves pour l'amitié. Donc ces deux phrases-là.
C'est le test final, en quelque sorte.
Exactement. Exactement. Qu'est-ce qui reste de l'amitié, de ce lien sincère, unique, fragile, au pays de la trahison, de la violence, des revirements ?
Oui, parce que c'est un terme qui en déguise beaucoup d'autres. On parle souvent d'amis politiques, hein. C'est dans tous les discours, je remercie mes amis politiques. Et en général, ce qu'il faut davantage entendre, c'est mes alliés ou mon réseau.
Alors, ce qui est important, c'est de faire la distinction entre compagnonnage et amitié. La camaraderie, le compagnonnage, on est soudés autour d'un combat commun. Et comme le dit Édouard Philippe, une fois que le combat disparaît, le lien affectif disparaît. Milan Kundera raconte que durant les grands procès staliniens, les hommes d'État communistes laissaient leurs meilleurs amis condamnés. Et l'amitié, c'est effectivement tout à fait autre chose. Il y a une phrase de La Bruyère dans Les Caractères qui explique qu'en politique, les amis deviennent les ennemis et les ennemis deviennent les amis. L'amitié en politique, c'est l'ami qui reste un ami.
C'est très versatile. Et d'ailleurs, on pense forcément aussi à Jacques Chirac qui déplorait que son ami de 30 ans, je cite Édouard Balladur, l'ait trahi pour se présenter à la présidentielle de 1995. Dans votre livre, il y a aussi plusieurs témoignages. Il y a aussi Marielle de Sarnez, qui est l'alliée de François Bayrou au Modem depuis, pour le coup, des décennies. Les deux se revendiquent comme des amis très proches. Elle raconte être vraiment tombée des nues quand certaines personnalités ont pris des chemins politiques différents au moment où le centre a dû choisir ou pas d'aller avec la droite. Et elle était presque étonnée de ne plus passer ses vacances avec certains de ses amis politiques auxquels elle ne parlait plus du jour au lendemain.
Oui, c'est même très violent puisqu'elle dit on se croisait dans la rue et on ne se disait même pas bonjour. Mais dans le livre, quand vous entendez Aquilino Morel,
l'ancien conseiller de François Hollande,
voilà, parler de François Hollande en disant en fait je croyais qu'il y avait une amitié, il n'y avait pas d'amitié. Quand vous entendez Pierre Moscovici parler de Dominique Strauss-Kahn en disant c'est une amitié trahie, il y a quand même beaucoup d'affect, il y a beaucoup de blessures. Donc ils sont blindés, mais pas au point, évidemment, de pouvoir vivre ces trahisons sans être affectés.
Oui, il y a Anne Hommel également, qui est l'ancienne communicante qui s'est occupée de Dominique Strauss-Kahn, qui a été proche de personnalités du Parti Socialiste, qui, elle, dit carrément, l'amitié, ça n'existe pas en politique.
Oui, Anne Hommel, elle a accompagné Dominique Strauss-Kahn dans son ascension et puis dans sa chute. Donc, elle a tout eu, l'affaire Pirogi, le Sofitel, le Carton, Marcela Yacoub. Et tout ça fait trop d'épreuves. Et effectivement, leur lien a explosé. Et aujourd'hui, ce qu'elle dit, c'est qu'alors que Dominique Strauss-Kahn était au centre de sa vie, elle n'a plus du tout de nouvelles de lui.
On connaît l'adage « Gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge ». Au gouvernement actuel, il y a deux jeunes ministres qui revendiquent haut et fort leur amitié. Vous les avez cités, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas encore été en situation de viser les mêmes postes, d'avoir les mêmes ambitions qu'ils sont encore amis? C'est ce que d'ailleurs sous-entend un autre interlocuteur de votre livre.
Bruno Le Maire, qui les connaît très bien tous les deux. Effectivement, moi j'ai pu constater que l'amitié en politique se heurtait à deux obstacles, la hiérarchie et la rivalité. Et c'est évidemment la rivalité qui est le lien, enfin qui est vraiment l'obstacle le plus dur à surmonter. Et de fait, vous citiez Bruno Le Maire, mais le lien de Bruno Le Maire et de Dominique de Villepin n'a pas survécu à leur rivalité. Puisque quand Bruno Le Maire a voulu prendre son autonomie, Dominique de Villepin a vécu ça comme une trahison. Même chose en ce qui concerne Pierre Moscovici et Dominique Strauss-Kahn. C'est la rivalité qui a mis fin à leur amitié.
Et on reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur ces amitiés un peu bancales en termes de hiérarchie avec également l'exemple de Nicolas Sarkozy et de Brice Hortefeux. Mais jusqu'où peut-elle aller cette amitié en politique? C'est aussi l'une des questions que vous posez dans votre livre, Marie-Laure Delorme. Milan Kundera écrivait qu'une conviction politique ne vaut pas de perdre un ami. C'est dans son livre Une rencontre, il évoque la puérile fidélité à une conviction qu'il oppose à la fidélité à un ami qui est, elle, décrite comme une vertu. Et de ce point de vue-là, s'il y a bien un homme qui a été vertueux, c'est François Mitterrand, l'ancien président socialiste, qui n'a jamais renié son amitié avec René Bousquet, collaborateur, qui fut secrétaire général de la police sous Vichy. François Mitterrand est interrogé à ce sujet par Jean-Pierre Elkabbach en 1994 sur France 2 et le journaliste lui demande s'il n'a pas fait preuve d'aveuglement.
Mais aveugle de sur quoi? Mais de quoi me parlez-vous? Mais ils sont en face d'un homme qui a été acquitté par la Haute Cour de justice, presque avec félicitation, c'est-à-dire levé de l'indignité nationale auquel on rend ses décorations. En disant, bon, il a peut-être fait des fautes, mais il s'est comporté de telle sorte qu'il mérite d'être acquitté. À ce moment-là, mais quel sentiment de justice a-t-on? Et pendant 30 ans, il vivra comme ça, à Paris. La chronologie commande. Bousquet redevient libre citoyen, très introduit dans les milieux politiques et dans les milieux financiers, de banque, dès les années 50 et dans les milieux de presse. Et il est considéré comme un ami par plusieurs chefs de gouvernement, qui sont de l'être républicain.
François Mitterrand, 1994, avec Jean-Pierre Elkabbach, il est à la toute fin de son second mandat de président de la République. Alors François Mitterrand et René Bousquet, Marie-Laure Delorme, c'est souvent une amitié qui est citée comme un paroxysme. Pourquoi ?
François Mitterrand, c'est l'homme qui ne laisse jamais tomber personne. Effectivement, son amitié avec René Bousquet est vue comme un cas extrême. Des journalistes, Pierre Péan, des historiens, Éric Roussel, des proches, Jacques Attali, se sont penchés sur l'amitié René Bousquet-François Mitterrand en disant que sans doute René Bousquet lui aurait sauvé la vie durant la guerre. François Mitterrand et l'amitié, c'est le pire et le meilleur, parce que effectivement, il a soutenu ses amis, comme par exemple Patrice Pelat, qui a été inculpé et accusé de délit d'initié dans l'affaire Péchinet. Mais c'est aussi le meilleur, il suffit de penser à son lien avec Georges Dayan, un ami d'avant-guerre. Il est allé, Georges Dayan est mort d'une rupture d'anévrisme en 1979. François Mitterrand est allé plusieurs fois sur sa tombe et le lendemain de son élection, il s'est rendu sur sa tombe au cimetière Montparnasse. Donc François Mitterrand, c'est sans doute le pire de l'amitié, c'est-à-dire sans doute est-il allé trop loin dans sa défense de ses amis. François Hollande parlait de délit d'amitié, mais c'est aussi la grandeur de François Mitterrand d'avoir soutenu ses amis. Et moi je vois un lien d'ailleurs, François Mitterrand, Édouard Philippe, Emmanuel Macron, pour eux, c'est une faute morale de hurler avec les loups, d'accabler un homme qui est à terre, de rejoindre la meute.
D'ailleurs, les deux hommes que vous venez de citer, Emmanuel Macron et Édouard Philippe, ont souvent ce mot « j'assume ». Et ça vaut aussi pour les amitiés. Dans votre livre, il y a un ministre, Monsieur Lecornu, qui dit qu'il apporterait des oranges en prison à ses amis, même s'il était toujours ministre.
Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, et c'est au cœur du livre, c'est qu'il y a d'un côté le public et d'un côté le privé, d'un côté la fonction, de l'autre côté l'homme. Donc on peut sanctionner un homme publiquement et lui rester fidèle humainement. Donc effectivement, comme dit François Bayrou, c'est évidemment une image, cacher le cadavre et puis pas une question, ou apporter des oranges en prison à son ami.
Mais est-ce que c'est encore possible ça? Parce qu'on est dans une époque qui promeut la transparence en politique, l'exemplarité même. Est-ce qu'on peut encore rester ami avec des personnes qui ont des choses à se reprocher?
La règle, elle est simple. C'est une règle d'ailleurs posée dans l'interview qu'on a écoutée au début avec Emmanuel Macron. Il faut séparer le public et le privé. À deux reprises, Emmanuel Macron, face à des amis ou face à des gens pour qui il a de l'estime, en l'occurrence François Bayrou et Richard Ferrand qui ont été mis en examen, il a dit « je leur conserve mon amitié ». C'est-à-dire que je n'interviens pas, je n'ai rien à dire sur l'éventuelle décision de justice, mais en revanche, je leur conserve l'amitié.
On va l'écouter d'ailleurs, c'était Édouard Philippe, au moment où Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, avait été mis en examen pour plusieurs affaires judiciaires, notamment celles qui concernent les mutuelles de Bretagne. Et le Premier ministre, nous sommes en septembre dernier, était venu à son secours avec ce mot, justement, très fort, d'amitié.
Je crois qu'il peut continuer à assurer la présidence de l'Assemblée nationale dans de bonnes conditions. Et puisque vous me posez la question, permettez-moi de dire, non pas en tant que Premier ministre au président de l'Assemblée nationale, mais en tant qu'Édouard Philippe à Richard Ferrand, l'amitié qui est réelle, que je lui porte, le soutien qui est total, et la confiance que j'ai dans sa capacité à faire valoir son innocence lorsqu'il pourra le faire devant un tribunal.
Et c'était donc sur TF1. La politique, c'est aussi l'univers du secret.
C'est l'univers du secret, parce que quand on parle d'amitié, on parle d'abandon. Et c'est d'autant plus dur pour un homme politique de s'abandonner. Il suffit de penser à deux exemples. Nicolas Sarkozy, sa conquête du pouvoir, il l'a faite avec un groupe d'amis. Et ils ont été écartés lorsqu'il est arrivé au pouvoir, parce que ils avaient été des témoins proches de ces déboires sentimentaux.
On les appelait la firme, hein, c'était
exactement 4... Laurent Soli, Pierre Charon, ils ont tous été écartés parce qu'ils avaient été témoins des déboires conjugaux de Nicolas Sarkozy et de sa seconde épouse Cécilia. Et le deuxième cas est celui d'Aquilino Morel et de François Hollande, puisque Aquilino Morel dit vrai ou faux que François Hollande s'en est séparé, notamment parce qu'il avait vu le roi nu et il avait été témoin, là aussi, de ses difficultés sentimentales avec Valérie Trierweiler.
D'un mot, il y a aussi des amitiés qui renaissent, il faut dire un mot ici, de celle qui unit François Hollande et Jean-Pierre Jouyet.
On dit d'ailleurs que Jean-Pierre Jouyet est le seul ami de François Hollande. Effectivement, il y a eu une rupture amicale entre eux qui a duré un an, de 2007 à 2008, quand Jean-Pierre Jouyet a décidé d'accepter le poste de secrétaire d'État aux affaires européennes dans le gouvernement de François Fillon.
C'était l'époque de l'ouverture à gauche. Exactement. De Nicolas Sarkozy.
Donc, Jean-Pierre Jouyet s'est justifié en disant Nicolas Sarkozy, c'est la politique, François Hollande, c'est l'amitié. François Hollande a cette drôle d'expression, je trouve. Il dit « j'ai suspendu mon amitié comme un contrat de travail pendant une année et ils se sont retrouvés comme avant ». Ce n'est pas toujours le cas. Hein. François Bayrou et Claude Goasguen, qui ont renoué, n'ont pas renoué comme avant.
Un mot sur l'amitié homme-femme en politique. Vous y venez avec plusieurs de vos interlocuteurs. La plupart d'entre eux semblent sceptiques. Ils semblent reprendre malgré eux l'idée de la philosophe Olivia Gazalet, selon laquelle il y a en politique une sorte de mythe de la virilité.
Il y a un mythe de la virilité. Et effectivement, Gilles Boyer et Bruno Le Maire et François Bayrou ont l'honnêteté, ou pas, en tout cas de dire que l'amitié entre hommes et femmes, c'est difficile parce que il y a, il le sous-entend, toujours de la séduction entre un homme et une femme. Et c'est d'autant plus vrai en politique, effectivement, il y a un véritable mythe de la virilité.
Vous écoutez Politique sur France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 avec Marie-Laure Delorme et on évoque l'amitié en politique. Alors, est-ce que la pratique d'un mandat public implique de ne pas avoir d'amis? Après tout, l'intérêt général est-il soluble dans les amitiés particulières? C'est quand même une question aussi d'éthique.
C'est une question d'éthique. C'est vrai qu'on y reviendra sans arrêt. Il faut faire la part entre la fonction et l'homme. Sylvain Faure en parle en disant que ça n'interdit pas les amitiés, cette hyper-moralisation de la vie politique. Il y a des aspects positifs et puis qu'il y a des aspects excessifs. Mais effectivement, ça questionne les amitiés, ça les rend plus fragiles, ça les rend plus difficiles.
Vos amis ont des intérêts, par définition.
Exactement. Et il faut sans arrêt faire la part des choses entre l'intérêt particulier et l'intérêt général. Bruno Le Maire le dit. Comme d'ailleurs Emmanuel Macron en tant que président. En tant que président, en tant que ministre de l'économie, je n'ai pas d'amis. En tant qu'homme, j'en ai. Mais quand il s'agit de prendre des décisions, il y a un seul enjeu qui est la France.
Et puis faire la part des choses, sans doute aussi, entre les amis et les courtisans, ce qui peut mener à une certaine solitude, c'est ce que disait en tout cas Georges Pompidou.
C'est probablement un des aspects les plus difficiles à supporter dans la vie de chef d'État et de responsable, c'est cette espèce de distance qui s'installe entre vous et les autres et qui, sauf en famille tout de même, grâce au ciel, existe toujours, s'installe petit à petit, se marque, on le sent. On n'est pas, pour les autres, n'importe qui.
Est-ce qu'on en souffre?
Moi, j'en souffre.
La souffrance du président de la République, Georges Pompidou. C'est intéressant cet extrait de Lina.
Très, moi la solitude du pouvoir, j'y crois, pour les raisons notamment qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est très difficile de s'abandonner.
De montrer sa faiblesse, vous voulez dire?
Exactement. C'est difficile de montrer faiblesse, fragilité. Tôt ou tard, le roi est nu. Et c'est une situation difficile à gérer. Moi, je crois à la solitude du pouvoir. Ce que je trouve intéressant dans le livre, c'est Sylvain Faure, qui a une opinion tout à fait différente, qui dit que c'est un cliché, la solitude du pouvoir, à l'inverse de Gilles Boyer, et qui dit cette chose que je trouve intéressante. Il dit, mais le problème, c'est que le président de la République n'est pas assez seul. Il est trop entouré de courtisans, d'experts, de visiteurs du soir. Il subit notamment la pression de la rue. Et donc, selon Sylvain Faure, le président de la République n'est pas assez seul.
L'amitié a aussi une fonction de séduction, la séduction amicale, on peut aussi en parler. Emmanuel Macron a bâti en partie sa conquête là-dessus. François Bayrou ne cache pas qu'il a été séduit par ce personnage et que c'est aussi pour ça qu'il s'est désisté en sa faveur à la dernière présidentielle, lui permettant ainsi de passer en tête des sondages. Autrement dit, l'amitié n'est pas qu'un sentiment éthéré ou intime, c'est aussi quelque chose qui a des conséquences très concrètes sur les élections.
Bien sûr, le pouvoir, il se conquiert à plusieurs. Après, sans arrêt, il faudra faire la part des choses entre les sympathies, les camarades, les compagnons et les amis.
C'est un tri difficile et pas uniquement d'ailleurs sans
voilà,
doute
et qu'est-ce en politique. Et qu'est-ce qu'on fait de ces amis une fois qu'on arrive au pouvoir? Soit on les garde, Brice Hortefeux et Nicolas Sarkozy, soit on s'en sépare, François Hollande et Julien Drey.
Alors, est-ce qu'on pourrait pas prendre un peu le large ce midi, Marie-Laure Delorme? Vous n'avez rien contre un voyage au Royaume-Uni?
Non.
Eh bien, c'est là que nous emmène Antoine Dulster. Bonjour.
Bonjour.
Antoine, vous êtes intéressé à une amitié entremêlée d'ambitions concurrentes, celle entre Tony Blair et Gordon Brown.
Oui, c'est l'un des grands psychodrames de la vie politique britannique de ces dernières décennies, cette relation d'amitié qui a longtemps uni les destins de Gordon Brown et Tony Blair. Le premier fut ministre des Finances du second pendant 10 ans, de 1997 à 2007, avant de prendre sa place au 10 Downing Street. Une répartition des rôles qui avait été planifiée très longtemps en avance, puisque les deux hommes se sont connus dans les années 1980. Alors, quels sont les ressorts politiques et les limites aussi de cette histoire d'amitié? J'ai posé la question à Pauline Schnapper, qui est professeure de civilisation britannique à l'Université Paris 3.
Cette amitié, elle est effectivement très intéressante et importante. Il faut bien voir que ce sont deux leaders de la même génération. Ils arrivent donc aux portes du pouvoir à peu près en même temps. Et puis, il y a aussi une dimension idéologique, c'est-à-dire que ce sont deux dirigeants, deux députés à l'époque, qui partagent une vision, celle qu'on va appeler celle du New Labour, donc d'un parti travailliste modernisé, plus centriste, qui facilite évidemment cette amitié. C'est vrai que dans ce couple, c'est plutôt Brown qui au départ a une espèce d'ascendant intellectuel, je dirais, c'est l'économiste des deux, mais assez vite, Tony Blair émerge comme celui des deux qui est le plus politique et le plus charismatique, disons. Et c'est sans doute ce qui explique le fait qu'au-delà de l'amitié personnelle, ils aient fait ce choix quand le moment est venu, hein, à la mort du leader du Parti travailliste John Smith en 1994. Ils ont fait donc le choix de laisser Tony Blair se présenter et Gordon Brown l'a soutenu, bien sûr, et est devenu son numéro 2 pendant 10 ans au gouvernement.
On parle de rancœur, hein, puisque effectivement les deux premiers ministres se succèdent, Tony Blair étant premier ministre pendant 10 ans, ensuite c'est Gordon Brown jusqu'à 2010, et dans leurs mémoires respectives, ces deux hommes ne font pas assaut d'amabilité, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, tout à fait, c'est-à-dire que cette amitié est très, très efficace, hein, qui leur a permis d'arriver au pouvoir en 1997, s'est transformée progressivement en une rivalité très forte, à la fois entre les deux personnes, mais aussi entre les deux entourages, à coup de fuites dans la presse pour décrédibiliser le voisin. Je parle de voisin puisque l'un était au 10 Downing Street et l'autre au 11. Et donc, dans les années qui ont suivi, les 10 années de pouvoir sont aussi les 10 années de rivalité, de coups bas entre les deux hommes. Et la rancœur de Brown vis-à-vis de Blair a été due au fait que Blair ne disait pas clairement quand il allait laisser la place à Gordon Brown. Et finalement, c'est sous une pression très très forte à partir de 2005 que Blair a finalement démissionné en 2007 et lui a laissé la place de Premier ministre à un moment où l'économie s'apprêtait à plonger dans la récession. Brown a considéré que Blair lui avait laissé la place beaucoup trop tard et il n'a pu être Premier ministre que 3 ans jusqu'aux élections de 2010.
Voilà, c'était Pauline Schnapper, professeure de civilisation britannique à l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle.
Merci Antoine Dulster. Marie-Laure Delorme, on entend bien cette différence de destin politique entre deux hommes qui s'étaient alliés. En général, ces amitiés qui fonctionnent en politique, qui résistent à l'épreuve du temps, sont des amitiés où les deux ne sont pas forcément à égalité, ni au départ, ni surtout à la fin.
Normalement, l'égalité, elle est consubstantielle à l'amitié. L'amitié, c'est une effusion, mais c'est aussi une construction. C'est quelque chose qui se construit. Dans le livre, ce que j'ai pu noter, c'est que les amitiés avaient du mal à survivre aux rivalités, mais en revanche, à la hiérarchie, non. C'est-à-dire qu'on trouve des liens d'amitié forts, Gilles Boyer, Édouard Philippe, type Bernard Cazeneuve, François Hollande, ou même Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux.
Oui, parlez-nous de ce duo. Il est assez spécifique, hein, parce que Brice Hortefeux vous dit, moi, je n'appelle quasiment jamais Nicolas Sarkozy, c'est lui qui m'appelle, j'ai dû l'appeler 10 fois en 40 ans.
En 40 ans, ça m'a sidéré.
Et là, on voit bien que la réciprocité n'est pas exactement du 50-50.
En même temps, Brice Hortefeux est le parrain d'un de ses fils. Il y a une fidélité de la part de Nicolas Sarkozy vis-à-vis de Brice Hortefeux. Il l'a accompagné, puis Brice Hortefeux a été ministre de l'Intérieur, ce dont il rêvait, la seule chose qu'il n'a pas été, c'est Premier ministre. Donc on peut dire que Nicolas Sarkozy s'est bien comporté avec Brice Hortefeux, et l'inverse est vrai. Brice Hortefeux est resté totalement fidèle à Nicolas Sarkozy, donc c'est un lien... C'est un lien inégalitaire, mais c'est un lien véritable. On en revient à la phrase de Montaigne sur la Boétie. Il y a quelque chose toujours de mystérieux dans l'amitié. Il y a une opacité des sensibilités, des rencontres des sensibilités. Il y a une part irrationnelle. Il y a quelque chose de mystérieux dans l'amitié entre deux personnes.
Mais le conflit éclate lorsqu'il y a volonté d'émancipation de l'un des deux qui était plus timoré jusqu'ici.
Tout à fait. C'est le cas Pierre Moscovici, Dominique Strauss-Kahn, c'est le cas Bruno Le Maire, Dominique de Villepin. C'est ce qui rend si difficile l'amitié en politique.
Michel Sapin, qui a connu François Hollande pendant son service militaire, qui était connu pour porter son cartable tellement il avait de l'affection pour son camarade, lui est toujours resté à sa place, entre guillemets, et aujourd'hui les deux sont toujours amis. Ils travaillent d'ailleurs ensemble dans les bureaux de l'ancien président de la République, rue de Rivoli.
Tout à fait. Et d'ailleurs, Pierre Moscovici et même Aquilino Morel ont des mots très durs. Hein. Et Pierre Moscovici parle d'un piège en disant l'amitié en politique, elle existe si on s'émancipe. Si on s'émancipe pas, elle est un piège.
Alors tout au long de votre livre, vous parlez de ces singuliers duos qui représentent les présidents de la République et leur meilleur ami, Jacques Chirac et Monsieur Debré. Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux, on vient d'en parler, Jean-Pierre Jouyet et François Hollande. Mais dans cette liste, il y a presque un absent, Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a une singularité? On n'arrive pas à percevoir ce qui serait l'équivalent de tous les personnages que l'on vient de citer, qui serait son meilleur ami.
Alors Emmanuel Macron, il a parlé d'amitié en ce qui concerne Richard Ferrand et François Bayrou. Je pense qu'il considère Sylvain Faure comme un ami. Ce qui est vrai, c'est que avant les trajectoires, il suffit de penser à Jacques Chirac et à François Mitterrand, elles étaient longues, avec échecs, traversée du désert, trahison. Donc les liens, ils pouvaient se souder sur le long terme. La trajectoire d'Emmanuel Macron, elle est fulgurante. Donc il a moins eu le temps de tisser des liens. On a coutume de dire que le seul ami d'Emmanuel Macron, c'est sa femme. Je suis pas sûre que ça soit juste. Dans le livre, il y a trois solitaires, Alain Juppé, François Bayrou, Emmanuel Macron. L'amitié avec un solitaire, elle est possible, mais elle est plus difficile.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marie-Laure Delorme. Je rappelle le titre de votre livre, « Parce que c'était lui, parce que c'était moi » aux éditions Grasset. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Sur France Culture dans Politique, une émission à réécouter, à podcaster, réalisée par Anne Fleury, préparée avec Antoine Dulster, Dalia à la prise de son. La semaine prochaine, vous retrouverez bien sûr Hervé Gardette. Dans un instant, c'est le journal sur France Culture et dans un quart d'heure, la suite dans les idées avec Sylvain Bourmeau. Très bonne fin de semaine.